Je vous invite à prier. Seigneur, ta parole est vivante. Que tu ouvres nos cœurs pour que nous puissions nous laisser pénétrer par elle maintenant. Amen. Et j'aimerais lire avec vous, pour débuter cette prédication, le psaume 119, les versets 9 à 16. Psaume 119, les versets 9 à 16. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En observant ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je sers de mon cœur ce que tu as dit pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Seigneur. Apprends-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les règles de ta bouche. Je suis content de suivre tes préceptes, comme si je possédais toute richesse. Je médite tes directives. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. Jusque-là, la parole de Dieu. Le psaume 119 est le plus long des psaumes. Il nous faudra un petit temps pour le lire tout entier maintenant. Et ce qui fait sa particularité, c'est qu'il est tout entier consacré à la parole de Dieu. Dans presque chacun des 176 versets de ce poème, il est fait mention, sous une forme ou sous une autre, de la parole, de la loi divine. Et ce psaume nous indique toute l'importance que la parole de Dieu a, doit avoir pour nous, pour former notre vie chrétienne. Nous devrions l'estimer, nous devrions la chérir, elle est un trésor pour nous. Ce psaume, d'un point de vue formel, est un psaume alphabétique. Il est composé de plusieurs strophes, de 22 strophes, qui chacune ont 8 versets, où chaque verset commence par la même lettre de l'alphabet, et chaque strophe passe à la suivante en empruntant les différentes lettres de l'alphabet hébraïque. C'est donc un psaume qui est très construit. On le classe généralement parmi les psaumes didactiques. Mais dans la réalité, il ressemble bien plus à une prière qu'à un enseignement. L'auteur parle toujours, ou quasiment toujours, en « je ». Un « je » qui prie. Je cherche, je médite, j'aime, je trouve. Il utilise un ton vraiment personnel pour s'adresser à son Dieu. On y trouve également des demandes. Apprends-moi, donne-moi, fais-moi vivre. Le psalmiste n'a pas de réticence, pas de crainte à exposer sa situation à Dieu, à l'appeler à l'aide, à lui demander son secours, confiant qu'il est que Dieu va répondre et Dieu va donner. Alors aujourd'hui, malgré la lecture de toute une section, j'aimerais méditer avec vous uniquement le verset 10. Il s'agit du verset qui a été retenu cette année par le Conseil pour la devise annuelle qui va nous porter tout au long de cette année 2018. Et vous aurez l'occasion dès la semaine prochaine d'avoir des petites cartes qui vous permettront d'emporter ce verset avec vous, de l'afficher sur votre réfrigérateur ou ailleurs dans votre maison pour que ce verset vous accompagne. Je vous propose aujourd'hui d'essayer de mémoriser ce verset. Ce n'est pas très compliqué, il est bref. Ce verset dit ceci : « Je te cherche de tout mon cœur ». Je vous invite à répéter. Bon, voyez, ça va. Je te cherche de tout mon cœur. Il y a encore une suite. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Ne me laisse pas m'égarer loin de mes commandements. Et en entier, Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Quelle est la chose la plus essentielle, le but ultime dans notre vie chrétienne? Je crois que c'est de chercher Dieu. C'est de chercher à vivre proche de lui, parce qu'il est notre Créateur. C'est lui qui nous a fait. Et il désire que nous puissions vivre en communion avec lui. Mais comment puis-je vivre proche de Dieu? Comment ne pas m'égarer et finalement m'éloigner de lui? Ce verset nous dit que c'est en obéissant à la loi de l'Éternel, au commandement de l'Éternel, que nous réussirons. Voilà le chemin qui nous est proposé pour réussir notre vie. La chose la plus importante dans notre vie peut être donc formulée de deux manières. Chercher Dieu, ou pour le dire autrement, obéir à sa parole. Et c'est la même réalité. Chercher Dieu, c'est obéir à sa parole. Et c'est ainsi que Dieu pourra être glorifié dans notre vie et dans notre vie communautaire. Le verset 10 nous dit quoi? Vous arrivez à le réciter? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Eh bien, je vais méditer avec vous ces deux phrases. Je te cherche de tout mon cœur, et puis ensuite, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Le cœur, dans l'Ancien Testament, représente l'endroit où je peux à la fois réfléchir et ressentir. Le cœur, c'est l'intelligence et les émotions. Ce qui signifie que chercher Dieu de tout son cœur, c'est le chercher de tout son être. C'est se trouver dans une position où à la fois je peux réfléchir au sujet de Dieu, et me trouver dans une position où tout à la fois je peux ressentir sa présence. Dieu n'est pas simplement un objet d'étude, une curiosité intellectuelle. Je suis invité à le chercher de tout mon cœur, pour qu'il puisse venir me toucher dans mon être intérieur, qu'il me transforme par sa présence en moi. Et c'est ainsi que je pourrai mener une vie réussie, une vie qui honore Dieu. Chercher Dieu de tout son cœur, c'est vouloir vivre cette communion avec Dieu. C'est vouloir vivre cette intensité du contact avec lui. Alors, est-ce que c'est là ma prière? Je crois profondément qu'au fond de tout enfant du Seigneur, au fond du cœur de chacun d'entre nous, il y a une aspiration profonde à vivre proche de Dieu. Mais il faut bien reconnaître que cette communion avec Dieu connaît des moments de haut, des moments de bas, et que la vie chrétienne est faite ainsi, qu'il y a des moments de lutte parfois, des passages du désert. Et d'ailleurs, l'ensemble des psaumes nous évoque ces hauts et ces bas avec le Seigneur. Mais c'est peut-être précisément quand nous sommes dans des moments de bas, de traversée du désert, que nous allons le plus être amenés à chercher Dieu de tout notre cœur. C'est là que nous aurons envie de dire « Je te cherche, ô mon Dieu, j'ai besoin de toi, de ton secours, de ta force. Viens à mon aide, conduis-moi, sauve-moi. Oui, je te cherche de tout mon cœur. » J'ai connu un tel passage, un tel moment où je me suis retrouvé proche de l'épuisement physique et de l'épuisement spirituel. Je m'étais tellement engagé pour l'œuvre du Seigneur que je n'avais plus pris le temps de me ressourcer suffisamment, ni dans la prière, ni dans la méditation de la parole de Dieu. Et peu à peu, je m'étais desséché, fatigué. J'ai craint un moment de faire un surmenage, et Dieu, dans sa grâce, m'en a préservé. Les vacances d'été sont arrivées, J'étais un peu au large de mon quotidien habituel et nous avons pris la décision avec mon épouse dans un temps de prière, alors que nous étions aussi dans un camp qui permettait à des serviteurs de Dieu de se ressourcer, nous avons pris la décision de prendre une année sabbatique. Non pas une année simplement pour faire des vacances, mais l'idée était de reprendre des forces pour pouvoir envisager la suite du ministère. Et durant cette année, je me suis nourri intellectuellement en suivant des cours de théologie. Mais je me suis aussi nourri intérieurement en prenant le temps de méditer la parole de Dieu, de la prier. Et j'ai cherché Dieu de tout mon cœur. Et Dieu m'a parlé. Il m'a parlé par sa parole. Ce que je lisais devenait parole de Dieu. C'est ce que Dieu avait à me dire. En la lisant, pendant tout un temps, je tombais à genoux au pied de mon canapé et je poursuivais ensuite dans la prière, m'attendant à lui, prenant le temps de lui parler, mais prenant aussi et surtout le temps de l'écouter, dans l'espace de silence que j'avais ainsi créé. Et j'ai vécu des moments intenses où j'étais face à moi-même, face à la parole qui est comme un miroir pour nous. Au 9e mois de ce temps sabbatique, je me suis levé un matin en disant à mon épouse, je crois que je suis prêt à continuer dans le ministère. Vous savez, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il nous renouvelle intérieurement pour que nous puissions continuer à le servir. Cette semaine, nous avons fait du tri pendant toute une après-midi avec Clément Blanc dans les caves du 167. Il s'y trouvait des tonnes de cartons de livres et aussi un certain nombre d'archives. Et tout à coup, je suis tombé sur un petit dossier, par hasard toujours entre guillemets, vous le savez depuis qu'on étudiait l'histoire d'Esther. Je suis tombé sur un petit dossier sur lequel j'ai lu « Rapport annuel de la librairie des bons semeurs » de 1931 à 1954. J'ai rapidement parcouru ces rapports, et dans celui de 1947, monsieur et madame Duménil, qui étaient gérants de cette librairie, relataient la manière dont ils cherchaient à vendre des Bibles. En 1931, raconte-t-il, les débuts avaient été modestes. Ils avaient vendu 135 Bibles, 695 Nouveaux Testaments et 487 Évangiles. Mais en 1946, ils en ont écoulé 5 fois plus, 858 Bibles, 2693 Nouveaux Testaments et 3106 Évangiles. Elles ont travaillé de manière infatigable. Ils comptaient sur le Seigneur pour renouveler leurs forces, écrivent-ils dans leur rapport. Et cette année-là, ils ont décidé de placer 4 annonces différentes dans le journal régional qui était le plus répandu. Et l'une de ces annonces portait le titre suivant. « Où trouver ce que vous cherchez ?» Et l'annonce se poursuivait ainsi. « Vous cherchez le bonheur ? Vous le trouverez dans la Bible. » Lisez le psaume 1, 1 à 3. « Vous cherchez la paix ? Vous la trouverez dans la Bible. » Lisez Jean 14, verset 27. Vous cherchez la consolation, vous la trouverez dans la Bible. Lisez 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Vous cherchez la certitude, vous la trouverez dans la Bible. Lisez Luc 1, 1 à 4. Vous cherchez l'espérance, vous la trouverez dans la Bible. Lisez Romains 5, 1 à 5. Les Saintes Écritures sont la réponse exacte aux profonds besoins si divers de chaque cœur. Avant tout, lisez la Bible. Une grande annonce, dans un journal. Les demandes de Bible sont venues des quatre coins du département. Monsieur Duménil a calculé qu'environ un lecteur de journal sur 1000 avait demandé une Bible. Où trouver ce que vous cherchez. Le psaume 119, verset 10, nous dit « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Nous pourrions facilement nous égarer, chercher Dieu au mauvais endroit. Mais la prière qui est formulée ici, c'est la suivante. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Lorsque nous entendons le mot commandement, beaucoup d'emblée font un recul instinctif, ça les effraie. Notre culture n'aime pas le terme commandement. Le psaume utilise toutes sortes de synonymes qui veulent dire la même chose que commandement. Précepte, chemin, décret, ordonnance, loi. Et tous ces termes servent à désigner finalement le contenu de la loi divine. La loi divine comprise ici dans un sens large, ce qui veut dire que le commandement, c'est d'abord les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, qu'on appelle la Torah, le Pentateuque. Mais par extension, ces divers termes se réfèrent aussi à la parole écrite de Dieu. Le commandement, c'est la parole écrite. Et donc, par implication, toute la parole de Dieu qui est révélée dans les Écritures. Autrement dit, quand le psaume nous parle des commandements, on peut dire qu'il s'agit de la Bible en entier. Et quand le psalmiste demande à Dieu de ne pas s'égarer loin des commandements, cela signifie qu'il veut pouvoir rester attaché à la parole de Dieu, à ce qui pour nous aujourd'hui est la Bible. Il veut pouvoir obéir à cette parole divine. D'ailleurs, au verset suivant, il nous dit qu'il chérit cette parole, qu'il la porte dans son cœur, et c'est ce qui l'aide à ne pas pécher. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements, loin de ta parole, loin de la Bible. Je vous relate une deuxième annonce qui était publiée en 1946 dans ce journal. Elle disait ceci, « Ah, si vous lisiez la Bible !» C'était le titre. Et la suite, « Vous connaîtriez le secret de la joie, de la force et d'une vie rendue utile aux autres. C'est le livre le plus demandé, le plus lu et le plus aimé du monde. » Il est pour toutes les races, dans tous les temps. Aucun autre livre ne peut se vanter de résultats aussi remarquables. Quel livre unique ! Le secret de cette puissance ? Il est la parole de Dieu, le seul guide infaillible qui montre les dangers de la vie et qui conduit au bonheur éternel. Et en gras, ce livre est aussi pour vous, il vous est facile de le posséder. Ce n'est qu'en lisant la Bible, en la méditant dans la prière, que je pourrai m'approprier cette parole divine, que je pourrai me laisser transformer par elle. Lire la Bible et prier constituent les bases de la spiritualité évangélique. Et je me souviens de ce prédicateur laïc que j'entendais dans mon enfance et qui disait régulièrement dans ses sermons qu'il lisait la Bible en entier une fois par année, et cela depuis sa conversion, si bien qu'il l'avait déjà lu plus de 40 fois en entier. Beaucoup de générations de chrétiens ont été nourries avec les guides de lecture de la Ligue pour la lecture de la Bible. Mais aujourd'hui, quand nous entendons les responsables de la Ligue, ils nous disent que les ventes, les abonnements ont considérablement diminué. On cherche d'autres manières pour aider les gens à lire la Bible. La Ligue a réfléchi à de nouvelles formes de communication. Comme les technologies ont évolué, notre spiritualité s'adapte aussi aux technologies qui nous parviennent. Et la Ligue aujourd'hui envoie des méditations brèves que l'on peut recevoir chaque matin sur son smartphone avec le guide qui s'appelle Espresso. Et le guide est à peine plus long qu'un texto. Il faut le temps de boire son café pour faire sa méditation du jour. Alors, faut-il se réjouir de ces développements ou bien plutôt s'en plaindre ? On pourrait dire d'un côté qu'il vaut mieux cela que rien. Et comme aujourd'hui l'information passe par de multiples canaux, ben, ce ne sera pour quelqu'un peut-être pas le seul contact qu'il aura avec la Bible. À un autre moment, il écoutera peut-être un chant. À un autre moment, il recevra une méditation quotidienne du Top Chrétien. Et ainsi, au fil de sa journée, il parcourra quand même l'Écriture d'une manière ou d'une autre. Mais d'un autre côté, est-ce que j'ai réellement le temps d'entrer en contact avec Dieu en profondeur en 4 minutes? Est-ce que le texte biblique pourra réellement produire un impact durable dans ma façon de vivre ma journée? Ou est-ce que cette méditation ne sera qu'une information supplémentaire qui viendra s'ajouter à toutes les autres informations que j'aurais reçues quasiment en même temps et que j'aurais mises simplement dans un coin de ma mémoire? Le psalmiste prie pour ne pas s'égarer loin des commandements du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où nous pouvons, où nous croyons en tout cas, pouvoir effectuer beaucoup de tâches en même temps. Nous pensons être multitâches et nous voulons faire 1000 choses à la fois. Nous sommes en séance, nous écoutons en même temps, nous tapotons quelque chose sur notre ordinateur et nous sommes encore capables de faire autre chose. Mais ne sommes-nous pas distraits finalement? Est-ce que les multiples informations qui nous parviennent provoquent encore réellement un impact dans notre vie? Est-ce que cette méditation, faite rapidement, permet encore de me plonger véritablement dans une vraie intimité avec Dieu? Nous sommes confrontés à une masse d'informations. Il devient de plus en plus difficile de trier, si bien que beaucoup s'enferment dans des formes de ghetto. Ils ne lisent plus qu'un certain nombre d'informations qui sont celles qu'ils préfèrent, avec lesquelles ils se sentent à l'aise et ne se sentent plus interpellés par quoi que ce soit qui vient du dehors de leur cercle. Comment éviter par ailleurs de mettre toutes les informations au même niveau? Comment faire le tri entre ce qui est important, ce qui l'est moins? Comment éviter en définitive que le texte biblique que j'aurais lu dans ma méditation ne devienne pas simplement la 25e information que j'aurais déjà reçue en buvant mon café du matin? Comment éviter que lorsque je médite ce texte sur mon smartphone, je ne sois distrait par un tweet ou par un SMS que je reçois au même moment? Et ça m'invite à me poser la question, est-ce que la Bible reste toujours au cœur de notre spiritualité? Est-ce que j'estime que c'est une nécessité vitale de prendre le temps de la méditer? Et est-ce que je m'en donne les moyens? Globalement, la lecture de la Bible a perdu de son importance. D'autres sources ont pu prendre le relais, que ce soit la musique chrétienne, des vidéos sur YouTube, des témoignages dans des revues. Mais aussi bienfaisantes que puissent être ces autres sources d'informations, autant peuvent-elles nous renouveler en partie dans notre vie de foi? Peuvent-elles pour autant remplacer la parole inspirée de Dieu? Et je pense que la réponse, c'est non. Parce qu'il y a une seule parole de Dieu à laquelle nous pouvons puiser, capable de nous interpeller en profondeur. On pourrait penser que c'était peut-être plus simple autrefois, mais ce serait en leurre. Chaque génération a eu à faire face à ces défis. Et peut-être simplement autrefois, mentionnions-nous moins les difficultés que nous avions à être réguliers dans la lecture de la parole de Dieu. Je crois qu'il ne faut pas idéaliser le passé. Nous devons faire face au présent et voir comment cette parole peut continuer à nous nourrir. Je lisais, il n'y a pas longtemps, un petit édito écrit par un ami pasteur qui a à peu près le même âge que moi et qui disait ceci. J'ai construit une vie spirituelle avec les guides de la Ligue pour la lecture de la Bible depuis ma conversion vers l'âge de 13 ans. Et puis ces fascicules éclairaient un passage difficile, guidaient mes pensées, qui était en divagation, il m'aidait à structurer ma vie avec Jésus. Et pour moi, il ne devait pas y avoir un seul jour sans lecture de la parole de Dieu. J'avais des phases où j'étais enthousiaste, mais j'ai aussi connu des traversées du désert où la Bible ne me disait apparemment plus rien. Alors tantôt, je me suis réjoui de l'aide précieuse d'un guide biblique, et tantôt, j'ai voulu jeter cette béquille en pâture. Alors j'ai expérimenté d'autres moyens pour développer des temps intimes avec le Seigneur. Et inconsciemment, j'ai souscrit à cet idéal du mouvement évangélique qui croit avant tout à une spiritualité sans béquille, libre, spontanée. Mais depuis lors, mon opinion a changé. Je suis revenu au guide de la Ligue. J'ai développé une petite structure autour de mon culte personnel et j'ai découvert la lecture du psautier en continu. Et bref, je crois aujourd'hui que la liberté d'une spiritualité sans ordre n'est simplement pas réaliste. Cet idéal que beaucoup d'évangéliques, auquel beaucoup d'évangéliques adhèrent fait qu'ils lisent aujourd'hui très peu la Bible. Décider d'une règle spirituelle, c'est l'expression même de la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Voyez, se contraindre, exercer une discipline, ce n'est pas le contraire de la liberté, c'est trouver la liberté en Dieu. Lire la Bible aujourd'hui est encore possible, mais il nous faut apprendre à avoir une certaine discipline personnelle. Il nous faut exercer de la vigilance. Il nous faut apprendre à maîtriser l'environnement technique dans lequel nous sommes pour qu'il puisse être une aide et non pas quelque chose qui vient se mettre en travers de notre relation à Dieu. Il me semble, mais chacun pourra faire ses propres expériences, il me semble que la méditation est plus évidente avec une Bible que je peux tenir entre mes mains, en papier, où je peux étudier la Bible et la méditer dans un endroit où je serai calme, loin de l'ordinateur, loin du smartphone. Il me faut trouver des moments dans ma vie, de tous les jours, où je peux vivre cette intimité. Comment la vivre ? Osons exercer une certaine discipline à l'égard de soi, une saine discipline spirituelle. Je crois que c'est uniquement comme cela que je pourrais progresser. Il y aura toujours des hauts et des bas, mais la proximité avec la parole de Dieu va me garder en lui et va me tenir loin du péché. Vous vous souvenez de notre verset ? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Pour terminer, j'aimerais mentionner encore un dernier point. C'est la dimension communautaire revêtue aussi par cette affirmation, par cette prière. Obéir à Dieu, ne pas dévier de sa parole, c'est également une démarche qui se vit en Église. Dieu a voulu l'Église. Il s'est choisi un peuple pour lui appartenir. Quand je ne suis pas seul dans ma relation avec Dieu, j'appartiens au peuple de Dieu. L'Église est le cadre dans lequel Dieu veut que je vive ma relation avec lui. Mais comment vivre aujourd'hui l'Église ? Alors là aussi, que la technologie peut-être rend les choses plus compliquées. Alors que les liens sociaux se délitent, alors que le sentiment d'appartenance à une communauté locale s'affaiblit, comment vivre l'Église autrement que le dimanche matin, lors du culte ? Nous avons tous les moyens de communication, et pourtant, nous sommes peut-être plus éloignés que jamais les uns des autres. La difficulté de la grande ville fait qu'il est difficile de nous retrouver en semaine. L'éloignement géographique des uns et des autres rend difficile de nous voir. Mais est-ce que nous n'avons pas à réinventer des formes qui nous permettent de faire communauté, d'être communauté, également en semaine? Le culte est bon, il est nécessaire. Et je pense important de le fréquenter très régulièrement. Mais vous serez sans doute d'accord avec moi, nous ne pouvons pas tout vivre dans l'espace du culte. Il est important que nous puissions nous voir en dehors du culte, que nous puissions nous rencontrer en plus petits groupes, que nous puissions nous encourager les uns les autres, que nous puissions prier les uns pour les autres, que nous puissions servir ensemble le Seigneur. Est-ce qu'il serait envisageable qu'au moins une fois par semaine, nous puissions faire quelque chose ensemble, avec d'autres, ou pour des autres? Pourrait-on ouvrir nos maisons à beaucoup d'endroits différents tout autour de Paris pour accueillir quelques frères et sœurs? Serait-ce le temps de prier ensemble ou d'ouvrir la Bible ensemble? Nous avons déjà des petits groupes. Pourrions-nous imaginer qu'ils se multiplient? Pourrions-nous imaginer qu'ils soient plus fréquents? J'aimerais vous lancer un défi pour ce début de l'année. Nous avons parlé de bonnes résolutions tout à l'heure dans la présidence. Mais serait-il envisageable qu'au moins une fois par semaine, en dehors du dimanche matin, nous puissions vivre quelque chose de l'ordre de la communauté, d'une manière ou d'une autre, soit en nous nourrissant de la parole, en venant dans une étude biblique, une réunion de prière, en choisissant d'ouvrir sa maison pour accueillir d'autres. Si nous ne pouvons pas nous déplacer, pourquoi ne pas prendre une soirée pour écrire des lettres d'encouragement à des frères et des sœurs de l'Église? Pourquoi ne pas rencontrer deux ou trois chrétiens qui travailleraient assez proches de là où nous sommes pour prier avec eux à midi? Pourquoi ne pas venir préparer un repas le samedi pour les personnes démunies? Pourquoi ne pas faire une visite à une personne malade? Pourquoi ne pas s'inscrire, à raison d'un soir par semaine, à un cours à distance avec l'Institut biblique de Nogent ou la faculté de Vaux-sur-Seine? J'aimerais vous encourager, vous inviter à vous poser cette question. Puis-je prendre, une fois dans la semaine au moins, un temps pour le Seigneur dans le cadre de la communauté? On se laisse facilement distraire par beaucoup de choses. Pouvons-nous prendre du temps avec le Seigneur dans notre rapport à l'Écriture, personnellement, mais aussi communautairement? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Seigneur, c'est là ma prière, c'est là notre prière ce matin. Merci d'y répondre. Merci parce que nous pouvons te faire confiance. Amen.